With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 517 du podcast Touchdown Actu. On a été très heureux de vous retrouver pour la présentation de la cinquième semaine de NFL. Déjà la cinquième semaine et déjà le deuxième match à Londres, Raphaël. Bonjour Raphaël Masmejean.
Salut Alain, salut à tous.
On va parler aussi de la belle affiche entre les Rams et les Cowboys, du hypomètre et les cotes de notre partenaire Unibet. Raphaël, déjà cinq semaines, c'est passé vite non quand même?
Eh ben oui, on est déjà quasiment au quart de la saison, pas loin.
Bah c'est ça, ouais.
Mais comme d'habitude, hein, ça file à une vitesse et on va bientôt se rendre compte qu'on enregistre le podcast débrief du Super Bowl et on se dira, oh là là, qu'est-ce que ça allait vite.
Exactement, on va bientôt arriver à Thanksgiving, après il y aura Noël et puis il fera nuit, on fera les... Parce que là, il fait encore un peu jour quand,
c'est vrai.
Quand on enregistre.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On commence cette émission avec le débat de la semaine. J'allais dire Victor. Raphaël, excuse-moi, l'habitude pour le jeudi en effet. Et on va parler défense. 11 équipes encaissent moins de 20 points par match après 4 semaines de NFL. C'est un échantillon, mais on l'a trouvé que c'était assez notable. Pour prendre comparaison avec l'an dernier, à la fin de la saison, il y avait seulement 4 équipes qui encaissaient moins de 20 points en moyenne. En 2020, c'était 3 équipes, 10 équipes en 2019, 4 équipes en 2018. Donc, 2019 faisait plutôt figure d'anomalie là-dedans. On revient à 11. Il faut remonter à 2015 pour avoir 11 équipes qui prennent moins de 20 points par match sur toute une saison. Raphaël, est-ce que les défenses sont meilleures en NFL cette année ?
Écoute, pour le moment, en tout cas, c'est le cas. Bien entendu, ça va se lisser, j'ai envie de dire, avec le reste de la saison et on ne sera peut-être pas 11 équipes à moins de 20 points d'ici la fin de saison. Mais je trouve que c'est assez notable malgré tout parce que depuis 4 matchs maintenant, depuis un mois, j'ai en tête pas mal de belles défenses d'un point de vue collectif, j'ai en tête pas mal de joueurs d'un point de vue individuel qui sont peut-être pas dans des très bonnes défenses mais qui font des belles choses. Et alors qu'en attaque, j'ai beaucoup plus de mal à sortir de belles attaques, de performances individuelles de bons joueurs dans des mauvaises attaques. C'est plus compliqué. Donc moi je trouve qu'on a un beau début de saison défensif et de mémoire l'an dernier je me rappelle qu'en début de saison à chaque fois à la fin du red zone on avait les chiffres record de nombre de points marqués après une semaine battue, record du nombre de points NFL après 2 semaines battues, enfin semaine après semaine les records étaient battus et cette saison c'est pas le cas, on a des attaques en difficulté et en galère. Alors c'est peut-être un peu du fait de leur fait aux attaques, on n'a pas 32 bons quarterbacks en NFL, qu'on n'a pas 32 bons coureurs, etc. Mais je pense que le mérite revient aussi aux défenses qui jouent très bien depuis ce début de saison globalement.
Tu l'as dit et forcément c'est la logique, si les défenses encaissent moins de points, les attaques en marquent moins. La saison dernière, après 3 semaines, on était à 47,1 points par match en cumulé. Cette saison, c'est 42,1. Donc, on a perdu. C'était après 3 semaines, pas après 4. Hein, j'avais pas la stat après 4.
Oui, mais je suis pas sûr que, cette semaine, que la semaine dernière, il y a eu beaucoup plus de points quand tu vois les résultats.
Donc, on a perdu 5 points par match en moyenne et on a perdu 30 yards par match à la passe aussi. On peut pas, tu disais en plus le manque de quarterback de qualité, etc. Mais en plus, on peut même pas dire que cette saison, c'est à cause des jeunes quarterbacks, puisqu'il y avait aucun rookie titulaire au début de la saison. Alors, il y a eu beaucoup de changements d'équipe. Il y a beaucoup de quarterbacks qui ont changé d'équipe, mais il n'y avait pas de rookie qui était titulaire, puisque Pickett, Bailey Zappi. Bailey Zappi, en fait, pour les Patriots, c'est le premier rookie à lancer un touchdown cette saison. Donc, il a fallu attendre la semaine 4. Est-ce que ce changement, il n'est pas aussi dû au fait que les coordinateurs défensifs commencent tout simplement à s'adapter au jeu de passe à outrance des dernières années?
Il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être effectivement un peu de ça du côté des... En défense, hein, on voit quand même de plus en plus d'équipes sortir des classiques défenses en 4-3, 3-4 et avoir de plus en plus même un, deux linebackers maximum, pareil, au milieu du terrain et plutôt jouer avec 4, 5, 6 cornerback, safety, en tout cas un backfield défensif de plus en plus étoffé pour contrer la passe, justement. Donc oui, je pense qu'il y a eu une adaptation tactique de la part des coordinateurs défensifs progressivement. Et puis, là, pour le coup, c'est peut-être en inverse de l'an dernier. Je trouve que pour le moment, les rookies offensifs qui des fois apportent aussi un peu, c'est un biais, mais qui apportent un peu de visibilité, on se dit qu'il y a une sorte de relève. Là, c'est peut-être un peu plus dur pour les rookies offensifs cette saison. On n'a pas encore le Jamar Chase de l'an dernier, on n'a pas encore le Justin Jefferson. Voilà, ça prend un peu plus de temps et je trouve que donc les coordinateurs s'adaptent. Et ces défenses-là, à mon sens, c'est pour ça qu'on n'a plus d'équipe. Enfin, les défenses sont aussi meilleures et c'est pour ça qu'après 4 semaines, on n'a plus d'équipe à 0 victoire, enfin, hormis les Texans. Quand tu vois les Bears, les Panthers, les Giants, ils ont déjà leur victoire parce qu'ils ont des défenses costauds qui les aident. Et je trouve que ça justifie la bonne tenue des défenses, en tout cas.
Je reviens sur le côté tactique parce que c'est un peu le hasard, mais en préparant l'émission, j'ai vu que le site The Ringer s'était intéressé à cette tendance aussi cette semaine avec un article où ils expliquaient justement que statistiquement, l'utilisation de formation à plusieurs safety avait augmenté ces dernières années, tout comme les couvertures en zone qui, en fait, privent, en tout cas dans leur objectif, les attaques du jeu long et les forcent à se contenter de zones courtes ou moyennes et limitent un peu
les big plays,
et limitent un peu les grosses actions. Donc, ils montraient en fait qu'en effet, même tactiquement, les coordinateurs s'étaient adaptés à ça. Et est-ce que l'inverse et le pendant de ça, c'est aussi que ça ouvre des espaces pour les coureurs et qu'on a une résurgence du coup ces dernières semaines, parce qu'on a vu on parle des défenses des Bears, etc., mais c'est aussi parce qu'ils ont une énorme attaque au sol.
Oui, effectivement, t'as peut-être un peu plus. Alors, c'est pareil, moi j'ai un peu le sentiment aussi que t'as une résurgence des coureurs parce que c'est des équipes qui ont des quarterbacks très moyens aussi. Enfin, quand le quarterback est en place, j'ai un peu le sentiment, Baltimore, les Chiefs, j'ai quand même le sentiment qu'on passe encore beaucoup par le jeu aérien.
C'est vrai.
Donc, c'est toujours pareil, tu sais jamais vraiment NFL. Quel est le premier, on va dire, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des quarterbacks médiocres qu'ils insistent plus au sol, ou est-ce que c'est parce que les coordinateurs défensifs s'adaptent mieux contre la passe, que du coup on repasse un peu par le sol? Peut-être un peu tôt pour en juger là-dessus, sur le lien. On va voir comment ça évolue sur le long terme. Mais en tout cas, oui, l'évolution des coordinateurs me semble assez notable sur le backfield défensif. Moi, ça m'a clairement marqué. Donc les coureurs, je sais pas. Je demanderai peut-être à voir encore.
Tu le dis bien, après, c'est une ligue où tout le monde se copie. Donc, et après, ils copient les meilleurs sans avoir les mêmes joueurs. C'est-à-dire que tout le monde veut faire du Kansas City ou des choses comme ça depuis 2018. Mais en effet, quand tu n'as pas Patrick Mahomes, ça complique aussi les choses. Donc, ça crée des tendances. Et puis après, bah oui, là, les coordinateurs défensifs s'adaptent. Ça marche sur les équipes qui n'utilisent pas Patrick Mahomes. ça peut les limiter. Mais après, voilà, c'est le jeu permanent. Et c'est pour ça que moi, je trouvais ça cool d'évoquer ça. Parce que tu te dis, les coordinateurs défensifs commencent à s'adapter. Donc maintenant, ça va peut-être être à nouveau autour des coordinateurs offensifs de retrouver des nouvelles choses pour éventuellement redynamiser un peu leurs attaques. Non, je sais pas, j'ai l'impression que tu vois, on est dans ce ping-pong là en fait.
Oui, bah c'est clairement un peu ça, effectivement, avec peut-être d'autres utilisations des tight ends, d'autres formations. On voit par exemple que dans le système dans le système de jeu de course, mais on voit par exemple les Falcons qui utilisent des schémas où le centre décroche complètement et va mettre des blocs sur le gauche, le côté gauche de la ligne. Enfin, Donc oui, c'est sans doute les coordinateurs offensifs qui vont devoir trouver d'autres choses et essayer de trouver d'autres solutions pour innover. Après, je m'interroge toujours dans le sport comme ça et dans la tactique jusqu'où tu peux aller dans l'innovation, parce que est-ce qu'il y a un moment t'as pas un peu exploré l'ensemble du champ des possibles, tu vois, jusqu'où tu peux aller dans des terrains
C'est vrai,
inconnus?
c'est vrai.
J'ai toujours un petit doute là-dessus. Maintenant, l'avantage pour les coordinateurs offensifs, c'est qu'ils ont aussi quand même des quarterbacks qui courent un peu plus qu'avant. Donc
C'est vrai.
déjà ton playbook a été ouvert un peu plus que par le passé. Est-ce qu'il l'est encore beaucoup plus? Je sais pas quand même.
On revient aux défenses à l'instant T. On se fait un petit top 3 pour finir cette rubrique. Les trois meilleures défenses de la ligue pour toi.
À l'instant T, moi, j'aurais un trio sans forcément donner d'ordre, hein, mais j'aurais un trio Tampa Bay, Buffalo et San Francisco.
Ah, t'as pas les Cowboys.
Non, j'ai pas les Cowboys encore. Je les trouve un peu plus faibles que les autres contre la course, notamment. Et pour le coup, tu vois, en termes de stats, Buffalo est moins bon, par exemple, que les Cowboys, mais j'ai laissé Buffalo devant. Parce que beaucoup de blessures à Buffalo, et il faut quand même rappeler que Buffalo a joué les Rams, les Titans, les Chiefs et les Dolphins.
Alors, en fait, voilà, c'est pour ça
Tu
aussi, moi,
vois?
je disais à l'instant T, j'aurais pris Dallas parce qu'il y a des blessures à Buffalo. Mais dans
Ouais.
l'absolu, si t'enlèves les blessures, en effet, Buffalo fait top
Bah,
3
et puis
avec
le calendrier, tu
Merci.
vois, je trouve que ce que montre Buffalo par rapport aux adversaires
C'est
qu'ils ont
vrai.
rencontrés, c'est peut-être plus fort. Dallas a une très belle défense, mais pour le moment, Dallas, ils ont aussi rencontré de mémoire donc les Commanders.
C'est faiblard, je voudrais pas dire de bêtises, mais Buccaneers, alors ils ont quand même limité les Buccaneers à 3 points en ouverture de la saison. Derrière, ils ont joué Bengals, Giants, Commanders.
Ouais, tu vois,
Oui.
Giants, Commanders dans tes deux attaques. Bon, je demande à voir. Après,
Ouais.
clairement, Dallas pour moi est aux portes. Hein. Aux portes de ce trio, j'avais aussi les Eagles. Enfin, y a quelques équipes qui peuvent y prétendre. Hein.
Ah, ça fait un top 5, on va finir là-dessus. Ça fait un top 5 dans l'ordre que vous voulez. On n'a pas donné d'ordre. 49ers, Cowboys,
Mais t'as vu les
Buccaneers.
49ers et les Buccaneers, toi aussi, du coup,
J'avais
dans.
exactement ces 5-là. 49ers, Cowboys,
Ouais.
Buccaneers, Eagles, Bills, dans l'ordre que vous voulez. Les Buccaneers, c'est très complet, avec des playmakers quand même à tous les niveaux et des joueurs talentueux. Les 49ers, on l'a vu la dernière semaine, c'est quand même très costaud devant. Nick Bosa est incroyable. Les Cowboys, je mets parce que maintenant, avec Micah Parsons, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue, donc ça va monter en puissance. Eagles et Bills, c'est très complet, même avec des blessures en ce moment, ça reste très très fort. Donc on a un petit top 5 sympa. On passe à l'affiche. Et l'affiche de la semaine, elle oppose justement les Rams aux Cowboys. On l'avoue, c'est une affiche avec une grosse incertitude au moment où on enregistre, puisqu'on ne sait pas si Dak Prescott va jouer. Pendant 2 semaines, grosso modo ces 2 dernières semaines, hein, on nous disait il va revenir en semaine 5 pour les Rams. Voilà, il a été opéré du pouce, on le rappelle. Mais ces dernières heures, Jerry Jones disait que ça peut être un peu juste pour attraper le ballon avec son pouce, puisque c'est le pouce droit, évidemment, hein, qui a été opéré. Donc, Dak Prescott ou pas, on ne sait pas. Mais, Raphaël, est-ce que c'est vraiment important? J'ai l'impression qu'on est à un point où c'est un match serré, quel que soit le quarterback des Cowboys.
Est-ce que c'est important? Je sais pas dans le sens, moi, enfin, j'ai envie de dire oui quand même, en fait. J'ai envie de dire oui quand même.
Alors, je préfère que tu dises oui plutôt que non, non, franchement, en fait, c'est pas du tout l'affiche de la semaine, les
Non,
Rams sont gagnants.
non, mais je pense que oui, l'absence de Dak Prescott peut être un peu plus handicapante sur ce match que de mettre Cooper Rush. Je continue à croire que Dak Prescott est quand même meilleur
Oui.
que Cooper
Évidemment.
Rush. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que là, Dallas, qui dans les deux matchs où ils ont joué, alors une grande partie de la victoire s'est construite sur la défense, hein, mais en tout cas, si on parle du côté, quand les Cowboys ont le ballon, ils ont quand même pu compter sur, alors pas contre les Commanders, cela dit, mais ils ont pu globalement compter sur un jeu au sol efficace. Là, les Rams sont la deuxième équipe contre la course en termes de yards encaissés, et de mémoire, ils sont à 3,80, ouais, c'est ça, ils autorisent 3,88 yards par course. Ce qui les place dans le top, on va dire en tout cas, cette défense des Rams. Donc, a priori, si Los Angeles confirme, ça veut dire que les Cowboys vont devoir passer dans le jeu aérien. Et c'est là où on va voir la différence peut-être un peu plus marquée, à mon sens, entre Cooper Rush et Dak Prescott suivant qui est sur le terrain. De toute façon, pour moi, le match se joue là, hein, se joue en attaque. Pour moi, et on y reviendra après, mais le match-up, c'est vraiment l'attaque de Dallas contre la défense des Rams. Moi, pour
Ah
moi, c'est le
ouais.
match-up décisif dans ce match.
Ah
Mais
bah, alors tu vois, moi je l'avais préparé totalement à l'envers de toi ce
bah,
match.
comme quoi.
Je m'étais dit que le match-up, c'était vraiment l'attaque des Rams contre la défense des Cowboys. Et en me demandant justement combien de points il fallait qu'il marque, tu vois, quelle était la bascule en fait. Après, ça revient exactement à ce que tu dis, c'est-à-dire que l'attaque de Dallas va être limitée aussi. Mais tu vois, à combien de points tu maintiens les Rams pour gagner? Parce que les Cowboys ont 15 sacs en 4 matchs, c'est le quatrième total NFL. Les Rams ont pris 7 sacs contre les Bills, 7 sacs contre les 49ers. Ils n'ont pas de jeu au sol, ils n'ont pas de receveur numéro 2. Bon, Cooper Kupp trouve toujours un moyen d'être libre, donc ça, c'est. Voilà. Mais je ne sais pas combien ils marquent de points, en fait, les Rams. C'est pour ça que moi, je l'avais en match-up le plus important, parce que, tu vois, ils ont. Pour moi, en fait, la bascule, je vais te dire tout de suite, elle était à 25, grosso modo, parce qu'ils ont gagné. Avec 20, 23, 25 points, les Rams, ils ne marquent pas énormément de points en fait, hein,
Non,
déjà
non,
cette
clairement.
année. Ils ont marqué 10 points contre les Bills, ils ont marqué 31, pardon, contre les Falcons, ils en ont marqué 20 contre les Cardinals et 9 contre les. Voilà, donc ils ont dépassé qu'une seule fois les 25 points. Ils ont même, oui, ils ont même dépassé qu'une seule fois les 20 points. Donc pour moi, s'ils sont allez, avec 23, 25, ils sont dans une zone où ils sont confort. Mais je sais même pas si.
Ouais, j'entends ce que tu dis, mais en fait, moi, je l'avais pas en match-up clé dans le sens que je pense que l'attaque des Rams, en fait, va galérer, tout simplement.
Ouais.
Comme tu l'as dit, tu as cette ligne offensive où tu as des remplaçants et des remplaçants de remplaçants qui
Ouais, c'est ça.
s'interéchangent entre chaque snap. Donc, je pense que Matthew Stafford va être sous pression de manière assez régulière, que le jeu aérien va galérer à se développer. Et ce qui m'inquiète, enfin, et ce qui est d'autant plus embêtant en fait avec le niveau de cette ligne offensive, c'est que pour le moment, Dallas est en difficulté contre la course. Ils autorisent 5 yards par course. Ils ont pris plus de 20 courses de plus de 10 yards dans la tronche. Donc tu pourrais dire, OK, il y a quelque chose à jouer pour les Rams à ce niveau-là. Le problème, c'est que la ligne offensive des Rams est tellement en difficulté que je ne sais même pas si le jeu au sol de Los Angeles peut vraiment profiter de cette faiblesse-là. Donc si tu veux, moi, en préparant le match, je me suis dit qu'en fait, l'attaque des Rams va galérer et c'est un match-up. À mon sens, qu'ils vont perdre. Donc, c'est pour ça que moi, à mon sens, pour aller chercher la victoire, il fallait que Los Angeles aille la chercher en défense, cette victoire, plus qu'en attaque. Donc, c'est là où j'envoyais un match-up clé. Parce qu'en plus, de l'autre côté, tu as Dak Prescott. Est-ce qu'il revient? S'il revient, il est un peu sous pression. Il y a Michael Gallup qui est un peu revenu la semaine dernière, mais qui doit confirmer. Pollard Elliott vont être face à une grosse défense. Donc, j'avais presque en fait plus d'intrigue, à mon sens, sur le match-up attaque Cowboys contre défense Rams. Plus d'intrigue là-dessus sur qui peut prendre l'avantage, et c'est en ça que je voyais le match clé, parce que je suis presque, et je me trompe peut-être, mais je suis presque persuadé qu'en fait la défense de Dallas va prendre l'ascendant sur l'attaque des Rams, en fait.
Bah, je vois où tu veux en venir, et au final, on se rejoint finalement parce que
Oui.
je pense aussi que, en effet, il faut qu'ils aillent le gagner en défense. Et j'allais, pour moi, je pense que c'est celui où ils vont justement ressortir. C'est le moment où tes stars défensives la sortent, quoi. Aaron Donald, Jalen Ramsey, t'es à 2 victoires de défaite, tu joues Cooper Rush, tu joues je pense que c'est le moment où ces mecs-là se montrent. Prennent un peu la main sur les trucs. Enfin, j'espère pour Aaron Donald qu'il avait envie de continuer quand il a hésité et qu'il a fallu avoir un gros contrat pour continuer. Mais si t'as vraiment envie d'être là et de gagner encore, les Donald et les Ramsey, ils sortent maintenant. Donc pour moi, en effet, c'est le scénario. En fait, je suis comme toi, c'est le scénario obligatoire. Il faut que la défense des Rams sorte un gros match et on se rejoint là-dessus. Donc on en arrive au pronostic parce que je viens de donner le mien, qu'est les Rams
Ouais,
avec un gros match défensif.
franchement, je suis un peu dans l'hésitation parce que quand on dit tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur le papier qui tendent à dire que Dallas peut l'emporter et que Dallas est pas loin même d'être peut-être pas favori, mais dans
Ah
une
non, mais
situation 50-50.
c'est un match serré, hein. C'est pour ça que c'est l'affiche aussi, parce que Dallas a le meilleur bilan, hein. Ils sont à
Bah, c'est ça.
3-1.
C'est ça, c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses qui tendent à aller vers Dallas, mais malgré ça, je vais aller sur les Rams, ce bénéfice champion en titre, et on est qu'après 4 matchs, et on a toujours tendance un peu à lisser, minimiser les défauts et les faiblesses des champions en titre au bout de 4 matchs, parce qu'on se dit, ouais, c'est le temps de. Super, ils ont la gueule de bois du Super Bowl, ils ont fait la fête, il faut se remettre en route, ça va le faire. Donc pour le moment, je suis encore dans cette optique-là, donc je vais aller avec Los Angeles. Mais tu me dis que Dallas l'emporte, alors là, franchement, je suis vraiment pas étonné, quoi.
Non, non, clairement, clairement. Donc Rams, pour tous les deux.
Make it special tonight. Make tonight special. It's our night and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong.
Yes, sir.
And we're gonna work on three. One, two, three. Work.
Les pronos de la semaine au niveau des scores. La semaine dernière, Raoul qui est remonté du Diable Vauvert, comme on dirait sur un commentaire du Tour de France en 1973. 12 points la semaine dernière pour Raoul, 11 pour Lucas. Bon, c'était la semaine de... c'était la semaine... Alors, j'allais dire de la queue de peloton, mais écoute. 10 pour Victor et pour moi-même, 9 pour toi et Grégory. Vous avez fait la moins bonne semaine. Mmh. Au classement général, ça fait 35, je suis en tête. 34 pour Victor, 34 pour toi, 34 pour Grégory, 33 pour Raoul, 32 pour Lucas. Donc, on se tient tous en 3 points. Mmh. Bon, on donne pas encore les... Tout le monde est remonté à 50% de bons pronos.
C'est pas...
Minimum. Mais bah, on était tellement mal la semaine d'avant. je veux dire, j'ai pas le... Attends, j'ai pas le... Non, parce que du coup, le fichier Excel, il harmonise toute la colonne du bas. Donc, on a plus le pourcentage après la semaine dernière, mais c'était pas joli. Mais oui, on se tient entre 54,7% de bons pronos pour moi et 50 tout rond pour Lucas. C'est pas incroyable. On est reparti pour une semaine de NFL. Donc, Raphaël, choisissons chacun notre tour. Les matchs qui nous ambiancent. Évidemment, on ne revient pas sur Rams Cowboys, qui du coup est en 1, hein, c'est l'affiche. Je te laisse l'honneur, c'est la première fois pour toi dans les previews.
Eh bien, écoute, moi, je vais ensuite sur le Ravens Bengals. Bon, choc de division, le vainqueur peut prendre la tête de la FC Nord. On a des arguments quand même des deux côtés pour les deux équipes. On a du côté de Baltimore un Lamar Jackson en feu quand même, malgré une deuxième mi-temps un peu compliquée la semaine dernière, mais globalement qui est en feu depuis le début de saison. On a des Bengals à l'opposé qui reviennent bien depuis deux matchs, qui sont un peu mieux dans leur surtout offensivement. Donc voilà, il y a beaucoup d'arguments pour regarder ce match. Il y a pas mal de choses intéressantes. Ça annonce quand même, à mon avis, une belle confrontation.
J'ai peur que Lamar Jackson soit encore un peu condamné à tout faire parce que les Bengals sont corrects contre la course et que du coup, ça annonce jamais des bonnes soirées pour Lamar Jackson. Mais il n'y a pas beaucoup plus de courses. Ça va beaucoup passer. Hein. Y a pas beaucoup
ça risque
de
beaucoup
courses
passer,
du côté des Bengals. J'avais le même derrière et j'ai un mal fou à le pronostiquer.
Ouais, je comprends. Surtout que t'as une équipe de Baltimore qui depuis le début de la saison commence très bien et a du mal à conclure les matchs.
C'est ça aussi.
C'est jamais fini d'avance.
Ouais.
Moi, je vais aller avec Baltimore parce que ils sont à la maison, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Ils sont à la maison. Je pense qu'il y a un moment, Harbaugh va réussir à remettre un peu d'ordre dans ce laisser aller en deuxième mi-temps. Donc, je vais aller sur Baltimore, mais. Voilà.
Oui, je vais aller sur Baltimore aussi, mais c'est un match très compliqué. Derrière, je mets les Packers et les Giants parce que c'est l'affiche de Londres et que je suis toujours chauvin.
Ah oui.
C'est parce que je suis chauvin, c'est à Londres.
Ouais, d'accord.
J'ai pas précisé le Ravens Bengals, il est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Le Packers Giants, il est donc à Londres à 15h30. Bon, évidemment, on sait pas qui sera le quarterback des Giants puisque, a priori, Daniel Jones est sur une cheville.
Mm-hmm.
Il pourrait être remis si c'est qu'une entorse légère. Il a fini le match quand même, donc je pense quand même qu'il sera là. Après, voilà, Aaron Rodgers en Europe, quand même, c'est un événement.
Oui, oui, c'est un événement. Et en vrai, je faisais un peu la fine bouche. Je l'avais pas, bien sûr, aussi haut en dehors de ce côté Londres. Mais malgré tout, il est intéressant parce que tu as des Giants qui sont à 3-1. Quoi qu'on en pense, tout ce qu'on veut, Brian Daboll a un bilan de 3-1 avec cette équipe qui manque quand même de talent à pas mal de postes, notamment offensivement. Et je trouve que pour eux, c'est un bon révélateur parce qu'ils ont battu les équipes faibles qu'ils devaient battre pour montrer qu'ils progressaient. Là, ils tombent contre une très grosse équipe. Ouais. Ça permet aussi de voir un peu où ils en sont. Est-ce qu'ils vont réussir à être accrocheurs? Est-ce qu'ils vont se faire laminer? Je trouve que pour eux, c'est un vrai bon test pour le coup sur où en sont les progrès de cette équipe.
Le pronostic?
Bon, ouais, Packers quand même. Mais...
Packers qui ont un peu plus de quarterback en l'occurrence. On se demandait lequel. À ton tour.
Et ben moi, je pars du côté de l'Arizona pour le Cardinals Eagles. On est donc face à la seule équipe invaincue de la saison qui est Philadelphie. On est face à des Cardinals qui commencent très mal leur match, mais qui les finissent plutôt bien. Kyler Murray qui va devoir un peu tout faire. Et malgré tout, ces Cardinals, on en dit ce qu'on veut, mais ils sont aussi à 2-2. C'est pas encore un bilan infamant. C'est un bilan même peut-être généreux, certains diraient. Voilà, je suis assez intrigué de savoir ce que les Cardinals peuvent ou vont faire contre les Eagles, Philadelphie, qui est peut-être l'équipe la plus complète actuellement de la ligue, hein, que ce soit attaque-défense.
C'est pour ça que moi je l'avais moins haut, parce
Ouais.
que les Cardinals n'ont que 4 sacs pour l'instant, c'est le plus petit total de la ligue, et
Face
contre
à la
cette
meilleure ligne
attaque,
offensive.
ça me fait un peu peur. Donc
Ouais, je comprends, je
j'ai
comprends.
peur qu'ils prennent un éclat très très vite s'ils commencent aussi lentement que d'habitude. Le Donc c'est dimanche à 22h25, ton pronostic?
Et bah Eagles quand même malgré tout.
Eagles. Je vais sur une
Contre
opposition de division derrière entre les Chiefs et les Raiders, lundi à 2h15 du matin, donc c'est dans la nuit dimanche à lundi, si je ne dis pas de bêtises. Les Chiefs, après, sur le papier, ont la meilleure attaque et la meilleure défense dans ce match.
C'est vrai.
Donc c'est pas un match où il y a énormément de suspense sur le papier, mais les Raiders les ont pas un peu embêtés de temps en temps ces dernières années.
De mémoire, l'an dernier, ils les battent 2 fois en saison régulière, non?
C'est tout à fait possible. Je voulais pas le. J'ai dit
De
embêté
mémoire,
parce
hein,
que j'avais plus la stat en tête. Hein.
j'ai un souvenir comme ça qu'ils les battent 2 fois, avec dont un match où Mahomes fait pas mal d'interceptions.
Ouais, ils les ont vraiment embêtés hein, ces dernières années.
Ouais,
Encore une
tout
fois,
à fait.
je voulais pas dire de bêtises parce que j'avais pas relevé la stat, mais donc voilà, c'est un match intéressant toujours de division. Il est dans la nuit de lundi à mardi. Hein, j'ai dit une bêtise, c'est le Monday Night Football évidemment. Mais oui, non, c'est
Bye.
et puis ça peut être fun. L'attaque des Raiders, elle est en sommeil et elle vient petit à petit, mais elle a quand même du potentiel. Donc dans un match comme ça de division, je regarderai avec plaisir. Et c'est les Chiefs pour moi au niveau du pronostic.
Les Chiefs également.
Et je te confirme, non, les Chiefs, ils ont gagné
Ok.
deux fois. C'est l'année d'avant, je crois, qu'ils
L'année
avaient
d'avant,
galéré.
peut-être. Ok.
C'est en 2020 où ils avaient un peu. Ouais, ils
Ouais,
avaient
c'est vrai que des
perdu.
fois.
En fait, ils avaient perdu une fois 40 à 32 et ils avaient gagné, mais 35-31 en
Ok.
2020. Donc, ils s'étaient fait embêter. Ils s'étaient fait embêter pas mal. Le match suivant pour toi, ce sera.
Alors. Ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais j'ai le Tampa Bay Atlanta Falcons à ce niveau-là.
Pourquoi pas?
Choc de division, déjà, toujours un petit point bonus pour ce genre de truc. Je veux voir si l'attaque de Tampa Bay confirme son retour en forme. Et c'est un peu le même truc que pour les Giants, mais côté Falcons, j'attends un peu de voir ce que valent ces Falcons face à une grosse équipe. On les a vus quand même faire du mieux contre les équipes moyennes et faibles. Là, pour moi, c'est vraiment un test à ce niveau-là. Donc, je suis assez intrigué par voir ce qu'ils vont faire face à une équipe censée être plus forte qu'eux, à quel point ils peuvent les embêter ou pas. Voilà, donc je l'avais à ce niveau-là. Et juste, je me permets une petite aparté parce que c'est quand même un peu drôle. J'avais Twitter en fond pour surveiller au cas où quelque chose tombe pendant l'enregistrement. Et donc, Cole Beasley, qui était arrivé chez les Bucks, a annoncé qu'il décidait de repartir à la retraite finalement, avec effet immédiat.
Ok.
Et son agent, dans le communiqué, ce qui semble être un communiqué de presse, son agent dit Cole veut repartir tout de suite à la retraite. Il est prêt à retrouver sa famille après 11 saisons. Il est temps pour lui d'être un père à plein temps et un mari à plein temps.
Ah oui, il fait ça genre le jour où il a prendre Brady, c'est ça que tu veux dire?
Bah non, mais il est chez les Bucks maintenant, Cole Beasley.
Ah oui, il est chez Biz. Oui, mais oui,
Et
il est chez.
je
Oui,
trouve
je
ça, je
confonds avec les
trouve la
Falcons.
sortie de l'agent de dire que Beasley repart à la retraite pour être un mari à plein temps au moment où tout ça se passe autour de Tom Brady à Tampa.
J'avoue.
Je sais pas, je trouve ça un peu cocasse, non? Voilà,
Oui,
c'était
j'avoue,
le.
je suis en train de découvrir aussi le communiqué. Oui, c'est vrai que c'est la formulation. Il est prêt à être un père à plein temps et oui. Et, ouais,
Voilà,
je.
je me permettais juste cette petite aparté parce que je la trouve assez cocasse comme on parlait des
On
Bucks.
donne le contexte parce que pour le coup, on sait que
Ouais.
c'est people et on sait qu'il y a certains auditeurs qui n'aiment pas qu'on fasse ça. Mais Tom Brady, donc il a été. Je cherche la source dans ma tête, c'est le New York Post, je veux pas dire de bêtises. Mais donc il a annoncé que lui et sa femme ont embauché des avocats de divorce. Donc a priori, c'est en. Lui, visiblement, il pourra plus vraiment être père de famille à plein temps, ni père à plein temps parce que. Je crois que c'est le Post qui a sorti aussi. Donc son arrêt de 11 jours à Brady en cours de camp d'entraînement, là, en fait, apparemment, c'était pour remplir une promesse qu'il aurait fait à sa femme quand il avait pris sa retraite. Il leur avait dit, je viendrai enfin en vacances avec vous au mois d'août. Et donc, apparemment, en fait, la coupure là, de 11 jours au mois d'août, c'était ça. C'était pour voilà, tenir cette promesse qu'il avait fait, alors qu'en fait, il est sorti de sa retraite entre-temps, quoi. Bref. Tout ça pour dire que je vais pronostiquer les Buccaneers quand même, parce
Oui, tout
que,
ça pareil, hein,
voilà.
l'équipe est bien meilleure, mais voilà.
Tom Brady est énervé. Si en plus il a plus que le football américain à penser, une fois que le divorce est acté, moi j'ai peur, hein. Il va continuer jusqu'à 50 ans. Ça va être incroyable. Pas de Cordarrelle Patterson en plus hein, pour les Falcons. Il y a des petites blessures là qui commencent à arriver. Et les Buccaneers retrouvent des forces en attaque. Et y a pas, y a, ça manque de monde en défense et de qualité en défense pour les Falcons. Autant Arthur Smith a fait des bonnes choses en attaque. Autant j'irai pas parier pour eux contre les Buccaneers. Quoi. Les Broncos contre les Colts. J'enchaîne avec les rivalités de division.
Ah, dis donc.
Écoute, je suis l'homme qui garde un espoir de voir les Broncos se réveiller. C'est la dernière semaine où je garde cet espoir et où je les mets haut, tu vois. Mais je me dis que leur défense peut être solide. Ils n'ont pas le droit de perdre celui-là. S'ils perdent celui-là contre les Colts d'un Matt Ryan à l'agonie et tout ça, là, moi, je...
Ok, j'avoue que je l'avais plus loin sans être juste dans le clash. C'est vrai que c'est deux équipes qui ont montré tellement de difficultés offensivement que j'ai un peu peur que pour un fan neutre,
ouais,
ça puisse être un match un peu dur à voir d'un point de vue offensif avec peu d'action d'éclat en tout cas.
C'est vrai.
Mais comme tu dis, après par contre, comme tu dis, moi je joue les Broncos et pour moi aussi, celui-là, ils doivent l'emporter face à une équipe des Colts qui semble être à la déroute. Ils peuvent pas se permettre d'avoir encore une victoire timide, quoi.
Clairement, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Qu'est-ce que je te sers derrière ?
Alors, un match très déséquilibré sur le papier, mais qui m'intéresse pour le profil d'un jeune joueur qui devrait être sur le terrain en tant que titulaire, c'est le Bills Steelers.
Yes, on a bien.
Voilà, forcément une intrigue autour de Kenny Pickett, qui va vraiment débuter son premier match. Il a commencé la semaine dernière, mais arrivé en cours de jeu, on sait que c'est pas toujours facile pour un quarterback rookie d'arriver en cours de jeu. Là, il débute a priori de A à Z. Alors, face à une adversité qui est peut-être pas la plus simple pour commencer. D'ailleurs,
tu veux les stats ? Les Bills sont premiers sur les yards encaissés, premiers contre la passe, troisième contre la course, deuxième sur les points encaissés.
Non mais voilà, ça, c'est un sacré challenge hein, pour commencer. Et je crois de mémoire en plus le reste du calendrier, les quatre premiers matchs sont très très compliqués Kenny Pickett, ça va être un enfer. Oui. Mais voilà, forcément, c'est un quarterback rookie qui commence vraiment sa saison. On a envie de voir ça, de voir ce que ça va être. Et puis, de l'autre côté, Buffalo, de toute façon, c'est toujours sympa à regarder.
Et puis, c'est dimanche à 19h, ça ne vous coûtera pas trop de sommeil. C'est bien aussi. Les Bills pour tout le monde.
Oui, pardon.
Je reste dans l'AFC avec Browns Chargers. Les Chargers sont la première attaque à la passe en NFL. Je sais pas pourquoi je mets ce match si haut parce que j'ai pas l'impression qu'il y aura beaucoup de suspense. On sait pas dans quel état sera Myles Garrett.
Attention. Moi, c'est plus pour la qualité de jeu que j'avais un petit doute de le mettre aussi haut parce que il y a quand même un scénario où les Chargers sont une des moins bonnes défenses contre la course de la ligue. Oui. Et il y a quand même un scénario où Nick Chubb leur roule dessus tout le match.
Alors en fait, c'est pour ça que je l'avais. C'était pour vraie opposition de style. Il y avait ça dans mes notes. C'est pour l'opposition de style vraiment explosif d'un côté et course de l'autre. Et comme tu le disais, en plus, pas souvent une bonne défense contre la course ces derniers temps pour les Chargers. Je vais dire les Chargers parce que je pense toujours que Jacoby Brissett ne peut pas suivre dans des matchs un peu enlevés. Donc, je vais dire les Chargers. C'est dimanche à 19h, ça.
Ouais, pareil. Je vais aller vers les Chargers parce que dans ces cas-là où c'est des matchs, moi, que je trouve peut-être plus serrés qu'il n'y paraît, mais du coup, je vais souvent vers le meilleur quarterback et il n'y a pas vraiment de doute sur qui est le meilleur entre Herbert et Brissett. Donc, je vais aller sur les Chargers. Mais attention, c'est typiquement le genre de match dans lequel les Chargers tombent aussi. Voilà. Et ben écoute, après moi je te propose, alors j'ai un doute entre deux, mais je vais aller sur le Jags Texan.
Pareil.
Parce que voilà, Jacksonville ont battu les Colts et les Chargers de manière très convaincante. Ils perdent la semaine dernière contre les Eagles, donc j'ai envie de savoir, est-ce qu'ils retombent dans leur travers, c'est un feu de paille, il est de bons matchs et c'est compliqué contre les Texans et c'est décevant? Ou est-ce que en fait, on se rend compte que Jacksonville a vraiment progressé et qu'ils vont facilement battre une équipe à leur portée? Et c'est ça que j'ai envie de voir, en fait. Est-ce que Jacksonville peut s'affirmer comme une équipe en progrès parce qu'ils battent les plus faibles assez facilement? Donc voilà, j'ai envie de voir ça dimanche. Et à quelque part, j'espère qu'on ne va pas voir un Jacksonville qui galère, un Trevor Lawrence qui galère, parce que ça ne serait pas très bon signe.
Les Jaguars, du coup, pour toi?
Oui, les Jaguars quand même, par contre.
Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un secteur où Houston semble avoir... Et pourtant, on parle des Jaguars, c'est pas non plus... Voilà, mais je ne vois pas un secteur où Houston semble avoir des meilleures armes, en fait. Tu vois
Non, effectivement, il y a... Non.
Il y a des meilleurs coureurs, il y a des meilleurs receveurs, il y en a peut-être... Enfin, il n'y a pas un Brandin Cooks, mais on profite
d'un peu plus. C'est un peu plus complet.
Donc ouais, c'est compliqué. Donc Jaguars. Confirmation pour moi aussi derrière, je prends le Jets Dolphins. Alors il est un peu, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas Tua Tagovailoa parce que ça aurait fait vraiment une belle affiche entre un Zach Wilson qui sortait d'un bon match ou en tout cas il finit très bien. Donc il y a peut-être une dynamique, une lancée à exploiter. Ça aurait été contre Tua Tagovailoa des Dolphins qui étaient dans l'élan. Bon, voilà. C'est le petit bémol parce que Teddy Bridgewater, pour le coup, on sait maintenant depuis un moment que c'est quand même pas très enthousiasmant à regarder jouer. Les Jets le savent eux-mêmes puisqu'ils l'ont eu. Bon, l'intérêt, ce sera Zach Wilson parce qu'il y a un coup à jouer. En fait, la défense des Jets, elle est très honnête depuis le début de la saison. Contre ouais. Teddy Bridgewater, là, même avec Tyreek Hill, etc., Teddy Bridgewater, c'est compliqué. Et donc, du coup, je pense que les Jets ont un coup à jouer. Là, c'est clairement sur les épaules de Zach Wilson pour confirmer ce qu'il a fait la semaine dernière, en fait. C'est-à-dire que là, ouais. S'il fait un bon match, il peut gagner.
C'est ça. Mine de rien, les Jets, sans trop de bruit, j'ai envie de dire, sont quand même à 2-2. Ouais. Un bilan de 2-2, pareil, c'était pas forcément attendu par tout le monde. Ou... Bref, de toute façon. Comme toi, je trouve que c'est assez intéressant. Moi, je m'étais noté de ce côté quand même l'affrontement entre la paire de cornerback des Jets, Gardner-Reed, qui est en très bonne forme depuis ce début de saison, face à Hill et Waddle. C'est un vrai affrontement pour eux, c'est un vrai test pour cette paire de corner du côté des Jets. Donc pareil, il y a quand même des trucs intéressants à aller voir sur ce match. Il aurait pu être encore un peu plus avec Tagovailoa, comme tu l'as dit. Je vais aller vers les Dolphins, mais méfiance. Méfiance, quoi.
Je vais vers les Dolphins aussi, parce qu'ils ont une défense qui marche bien. Mais ouais, il est pas facile à pronostiquer. Franchement, il n'est pas facile à pronostiquer. J'ai toujours peur des une ou deux erreurs de Zach Wilson qui peuvent faire mal dans un match comme ça, qui va être défensif, qui va être serré. Mais il est vraiment intéressant, ce match. Il est intéressant. Tu parlais des deux victoires des Jets. Ça fait quand même déjà autant que l'année dernière et la moitié de ce qu'ils avaient gagné en 2020. Ça fait la moitié de l'an dernier et déjà autant qu'en 2020. J'inverse les deux saisons. Mais donc voilà, c'est déjà bien. Là, s'ils sont quand même sur un rythme vachement plus rassurant. Derrière, qu'est-ce que tu as... Donc Dolphins pour moi aussi. Hein.
Ouais, derrière un peu plus compliqué, je pars sur le Saints Seahawks. Voilà, on a une équipe de Seattle pas inintéressante quand même, hein, qui a une dynamique surprenante, notamment offensivement. Je pense que personne ne s'attendait à voir Seattle à ce niveau-là offensivement en début de saison. Donc ils sont surprenants offensivement. En défense, tout ne va pas. La défense est même plutôt faible. Mais il y a 2-3 individualités. Victor en parlait, mais il y a le rookie Tariq Woolen qui est vraiment intéressant au poste de cornerback. Donc je suis assez intéressé de les voir sur ce match parce que sur le papier, les Saints sont plus de talent à mon avis. Mais la dynamique à New Orleans, c'est pas bonne. Et pas bonne. Ouais. Et je pense que Seattle pourrait presque repasser en positif après ce match et être une surprise. Ouf. Ouais. Donc j'ai envie de voir ça, après c'est à New Orleans, c'est pas jamais facile là-bas, mais je sais pas, je trouve que c'est un match à 50-50 parmi ceux qui nous restent, c'est peut-être le plus équilibré.
Clairement, donc, clairement parce que les Saints sont à la maison, tu l'as dit, les Seahawks prennent 29 points par match quasiment, donc tu peux te dire les Saints à la maison, voilà. Mais les Saints c'est aussi le pire différentiel de ballon perdu sur de ballon gagné perdu avec moins 7 sur le début de la saison, donc ça en fait un match totalement incertain. Je vais mettre les Saints parce que ça a l'air d'être parti pour Andy Dalton qui peut un peu moins les tuer que James Winston et faire un peu le boulot, et je pense que peut-être la défense va quand même calmer un petit peu et l'ambiance, tu vois, l'ambiance plus la défense va peut-être calmer un petit peu Geno Smith, donc j'irai sur les Saints mais incertain en effet.
Ouais, écoute, je vais sur New Orleans, mais c'est vraiment du kiff-kiff, quoi.
Il nous en reste 3. C'est toi.
C'est à toi.
C'est à moi. Commanders Titans. Parce que j'avoue que là, entre les 3, pour moi, il en reste 4 d'ailleurs, j'ai dit une bêtise. C'est un peu kiff-kiff. Les Commanders peuvent gagner, ils ont même les meilleurs receveurs, je pense, ils ont un meilleur groupe de receveurs, ils ont un bon groupe de coureurs. Après, en fait, c'est un match où je mise sur le coaching. Tu vois, on en a parlé dans les émissions de débrief. Je pense que Ron Rivera, là, est un peu dépassé, que ce soit en défense ou voilà. Donc, je pense que ou Carson Wentz va leur faire mal. Enfin, tu vois, j'ai du mal à parier sur les Commanders en ce moment, quoi. C'est-à-dire que soit, si c'est pas le coaching, c'est Carson Wentz qui va leur faire du mal. Ça a beau être à Washington. Le plus gros ennemi quand tu vas à Washington, c'est la pelouse. Donc si les Titans arrivent à se sortir de ça, je vais dire les Titans.
Oui, non, mais pareil, je vais dire les Titans. Je l'avais en dernier ce match. Je vois une victoire assez facile des Titans qui sont en train un peu de remonter la pente. Commanders, ça s'effondre. Titans.
C'est à ton tour.
Ouais, je réfléchissais parce que moi j'ai plus que deux matchs et il semble t'en rester trois, alors je me demande lequel j'ai oublié.
Attends, moi j'ai Vikings, Bears, Patriots, Lions, Panthers, 49ers.
Ah bah voilà, j'ai oublié le Patriots Lions, tiens, je l'avais pas dans ma liste. Et bah du coup, je vais aller sur celui-là. Je vais aller sur celui-là parce que on a des Lions qui sont fun à voir jouer offensivement clairement depuis ce début de saison. Et du coup, par répercussion, ils prennent tellement de points qu'ils permettent aux attaques adverses d'être plutôt fun. Là, ça va être l'occasion ou jamais pour l'attaque de New England d'être fun. Donc, j'ai envie de voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va voir Bailey Zappi un deuxième match? Pourquoi pas? J'avoue que je suis plutôt intrigué de voir ce que ça va donner ce match.
Ça me va
Voilà.
très bien. Tu le disais, les Lions sont fun à voir jouer, donc ça se regarde parce que les Lions sont fun à voir jouer. Est-ce que les Patriots arrivent à suivre? Parce que là, pour le coup, ça cavale, hein, ça
Et
marque
ben,
beaucoup de points.
ouais, bah écoute, moi je vais aller vers les Patriots. Je sais que sur le... c'est peut-être pas.
Ok.
Non, je sais pas d'ailleurs s'il y a vraiment un favori qui se dégage de ce match. Je pense que les Patriots vont emballer ce match au sol et qu'ils vont tenir le chrono et que ils vont poser un peu de difficulté à Goff. Donc je vais sur les Patriots maintenant. Bon.
Les Lions marquent 35 points par match, mais ils en autorisent 35,3. Donc, c'est pour ça qu'ils sont à une victoire, trois défaites. C'est-à-dire qu'ils
Ouais,
ont la meilleure attaque de la
c'est.
ligue, mais vous vous doutez bien qu'il y a un vice quand tu es à 1-3 alors que tu as la meilleure attaque de la ligue. Les Patriots, c'est beaucoup moins flamboyant. Hein. C'est 18 points par match,
Ah
mais
oui.
24 encaissés. Je vais aller sur les Lions quand même parce que ça patine quand même beaucoup en attaque pour les Patriots quand même. Tu vois, si les Lions, même sans monter à 35, leur en collent 25, même 10 de
Oui.
moins que leur moyenne,
Oui.
je ne sais
Oui,
pas
oui.
si. Même
Ouais,
si la défense des Lions, c'est atroce. Hein.
ouais.
Mais je vais aller sur les Lions. Panthers 49ers derrière. Je t'avoue que les deux derniers se valent hein, pour moi. Jimmy Garoppolo contre Baker Mayfield, j'imagine. La défense des Niners qui. Alors, la défense des Niners, dis-toi, Carolina gagne 262 yards par match en moyenne. C'est la pire moyenne de la NFL. Ils sont 12 yards derrière les Bears, par exemple, pour te situer. Donc, là, pour moi, vu qu'on a dit que la défense des 49ers était top 5, ils jouent Baker Mayfield et les Panthers qui sont dans un état lamentable. Donc, je pense que si t'es San Francisco, t'en mets 20 et t'as gagné, non?
Ouais, bah je à 17 même à mon avis à
Oui.
17 deux touchdowns et un field goal t'es à
Ouais,
l'abri.
je pense que.
Effectivement, ça me paraît une opposition assez déséquilibrée. Alors des fois, les 49ers se tirent quelques balles dans le pied et se plantent un peu étrangement. Ça leur arrive, mais
Ouais.
bon, sur ce qu'on voit depuis le début de saison, ils sont tellement meilleurs en défense et ils sont meilleurs en attaque que j'ai du mal à voir le scénario qui permet aux Panthers de s'en sortir, donc San Francisco, quoi.
Ouais, c'est quand même compliqué. Je pensais pas qu'on en reviendrait un jour. Alors, je sais pas si c'est pour faire du clic ou quoi, mais de voir des médias américains dire et quand Sam Darnold sera remis de sa blessure, tu vas dire ah ouais, on en est là quoi, dire on va scratcher Mayfield pour waouh, dur, dur. 49ers pour tout le monde. Il te reste donc.
Et ben le Vikings Bears, si je me suis pas planté.
C'est ça.
Bon, certains pourraient nous dire qu'avec Minnesota, on sait tellement jamais ce qui va se passer que ça pourrait être plus haut, hein, et je peux l'entendre, je peux l'entendre, mais moi, ce côté irrégulier des Vikings commence à m'agacer fortement. Et du coup, c'en est presque à. J'ai plus tellement envie de voir leur match par rapport à d'autres parce que je me dis que voilà, ça va être pareil. On va avoir des Vikings irréguliers, ils vont faire des coups d'éclat et puis ça va pas être si solide que ça. Donc, je sais pas vraiment à quoi m'attendre de leur part et.
D'autant qu'il y a peut-être un coup à jouer, hein. Les Vikings qui prennent 131 yards par match au sol
Ouais.
pour l'instant.
Ah bah, puis en face, ils rencontrent.
C'est ça?
C'est ouais, c'est le sol en face, hein. Ça fait pas
Après,
autre chose, hein.
moi je vais te dire, c'est pas. En fait, j'aurais envie que ça marche parce qu'on a toujours envie que ça marche pour les jeunes quarterbacks. Et les Bears sont durs à regarder en ce moment parce que justement, tu aurais envie que ça marche pour Justin Fields et que ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. C'est-à-dire que, on l'a dit dans une autre émission de cette semaine, les choix de jeu sont quand même pas idéaux pour le mettre dans les bonnes conditions. La ligne, de toute façon, on l'aide pas non plus. Mais on commence à plus savoir au bout d'un moment si c'est les receveurs, si c'est la ligne, si c'est lui, si c'est les choix de jeu. Et ça, en fait, c'est presque par amour pour les Bears et Justin Fields que j'ai du mal à regarder ces matchs, tu vois. Ça me fait
Oui,
trop mal au
j'entends.
cœur. C'est
Non, mais oui, c'est vrai que c'est toujours triste de voir un jeune quarterback qui n'arrive pas
ouais.
à s'en sortir parce que bah tu sais plus trop pourquoi d'ailleurs en fait. J'arrive même plus à me l'expliquer, mais ouais, je comprends.
Et moi je vais dire, je l'avais en dernier pour ça parce que j'ai vu trop de matchs des Bears là sur les 4 premières semaines et que il me faut un petit temps de repos. J'ai trop mal au cœur quand je les vois. Donc Vikings Bears, ce sera Vikings pour moi, mais faut espérer qu'ils trouvent un peu quand même la clé à un moment. Les Vikings pour toi aussi?
Oui, pardon.
On enchaîne. Attendez, je m'excuse, je remets jingle. Et je vous explique pourquoi. Avant d'enchaîner, je vous rappelle quand même l'ordre des matchs, parce qu'on les donne dans le désordre. L'ordre des matchs, c'est le match du jeudi, Broncos-Colts. Celui de dimanche à 15h30, Packers-Giants. À 19h le dimanche, vous aurez Bills Steelers, Browns Chargers, Jaguars Texans, Vikings Bears, Patriots Lions, Saints Seahawks, Jets Dolphins, Buccaneers Falcons, Commanders Titans. C'est encore beaucoup, beaucoup de matchs à 19h. Il n'y en a que 3 à 22h. Panthers 49ers, Cardinals Eagles, Rams Cowboys. Et à 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi, Ravens Bengals. Et enfin, le match du lundi soir, donc dans la nuit de lundi à mardi, Chiefs Raiders. Voilà pour les affiches, les cotes. Les cotes de notre partenaire Unibet. Raphaël, est-ce que tu as vu une cote qui t'intéresse? Si vous le sentez vraiment, le Jets, il a 2,31 et le Cowboys, il a 2,58. On disait que c'était des matchs où ils ne sont pas favoris, mais
c'est vrai. Hein, c'est vrai.
C'est des petites surprises, hein. C'est pas du favori, mais ils sont jouables.
Compliqué les cotes là.
Moi j'ai Chargers à 1,57 contre les Browns.
Ouais, bah à la limite, pareil, si on reste sur favoris avec une cote à peu près correcte, je dirais sur les Titans à 1,65.
Exactement. Et les Lions à 2,22, non? Sur les Patriots.
J'avoue que moi, mettre les Lions dans un combiné, c'est toujours une petite angoisse. Bah, à la limite, tu vois, j'irais presque plus sur les Bengals à 2,30.
Je ne sais pas lequel des deux me chauffe le plus, mais pourquoi pas. Les Chargers 1,57 contre les Browns. Celui-là, moi, je l'ai mis. Je fais une petite vidéo aux réseaux sociaux. J'ai pris les Chargers comme affiche de la semaine parce que je pense qu'ils vont déborder Cleveland. Les Titans contre les Commanders, donc à 1,65. Les Bengals contre les Ravens, donc c'est notre plus grosse cote de la semaine à 2,30. On rappelle évidemment, vous pouvez les jouer séparément. Et si vous les jouez ensemble, ça fait un combiné pour lequel vous pouvez miser par exemple 5 euros qui rapporterait 29,79 €. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait un YOLO, Raphaël.
Ça fait longtemps.
Est-ce que tu as foi en la première de Kenny Pickett?
Ah non. Ah
mais
non,
c'est un YOLO.
On a fait
des YOLO vachement raisonnables ces dernières semaines.
Ah non. Mais alors déjà, tu vois, pour moi, à 2,58, les Cowboys...
Allez, on rajoute les Cowboys. Ben, on rajoute les Lions à 2,22, du coup.
Oui, ouais. Et donc, puis, pourquoi pas Seattle à 2,68? On dessine sans point en difficulté.
Oui. Faut juste que
après
je
les autres
de 68. Ouais. Et ça, donc du coup, si on prend le Chargers Titans Bengals qu'on avait mis tout à l'heure, vous rajoutez les Cowboys qui battent les Rams à 2,58, les Lions qui battent les Patriots à 2,22 et les Seahawks qui battent les Saints à 2,68. Pour 5 euros misés, ça fait 491,21 € de gains potentiels. J'étais en train de chercher une comparaison, mais c'est moins YOLO. À une époque, on faisait des YOLO très YOLO. Celui-là, il y a un monde où il peut passer. C'est ce que je disais la semaine dernière. Évidemment, il y a six cotes. Vous mettez pas le salaire là-dessus. Vous jouez de manière raisonnable. Non. C'est un petit euro. Voilà.
De toute façon, tu mets pas un salaire où, dans un truc où tu joues Saints, Cowboys et Lions.
Clairement.
Enfin, je veux dire. C'est...
Donc, déjà, 1 euro, ça fait 98,24 € de gains potentiels. C'est toujours sympa, ça paye un très bon resto.
Tout à fait.
C'est tout à fait sympathique. Je rajoute juste, si vous voulez être vraiment très YOLO, les Steelers à 5,90. Kenny Magic Pickett premier. Et là, pour 1 euro misé, le combiné rapporte 593,45 €.
Ah oui, bah là, tu m'étonnes que ça s'envole. Mais...
Ah bah là, oui. Là, pour 5 euros misé sur ce combiné-là, ça fait 2 967,28 €. Pour parler un peu dans ce qu'on disait à une époque, on a un peu arrêté. Mais là, 2 967,28 €, c'est quoi? C'est un mois de studio à Paris? Non, moi, j'y habite plus. J'ai pas suivi les cours, mais on y est à peu près, non?
Ah, tout de suite.
Allez, on va dire un mois de loyer et d'électricité et un plein d'essence. Allez, hop.
T'as un peu plus qu'un studio à ce prix-là tout de même, mais oui. Non, j'entends. Mais ouais. Il faut vraiment avoir la foi en Kenny Pickett.
Non. Là, le Kenny Pickett, vraiment, c'est que 1 euro. Hein. C'est 1 euro. Je crois que tu peux même mettre 50 centimes.
Oui, je crois que tu peux aller jusqu'à 10 centimes.
Oui, je
Je
crois que
crois que
c'était
c'est
ça,
10
voilà.
centimes la mise minimale, on va dire.
Alors écoute, je vais mettre 50 centimes sur le YOLO avec Kenny Pickett et ça fait 296,72 € de gain potentiel. Donc voilà, c'est placé. C'est placé. Hop, validé et parié. Et ben, la cote a changé au moment où j'ai validé, donc ça fait 310,53 € de gain potentiel sur cette mise de 50 centimes. Voilà. Voilà. On rappelle évidemment, on joue de manière raisonnable, on se fixe des limites, on se fait aider si vous sentez que vous perdez le contrôle. Et le numéro, c'est 09 74 75 13 13 si vous sentez que vous perdez le contrôle au niveau des paris en ligne. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite sur les antennes de TDA. Demain, donc là, vous nous écoutez, l'épisode est sorti le jeudi matin. Le vendredi, c'est la draft. Le samedi, c'est le rétro. Samedi, on va parler. Raphaël, c'est du old school. On était tout jeunes. C'est un podcast où on est tous les deux.
Ouais.
Et ça parle de Tim Tebow.
Aïe,
Ça
aïe, 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 aïe.
parle d'un petit jeune qui vient de débuter et à qui on dit, bon, il a peut-être encore des belles années devant lui, qui s'appelle Andy Dalton. Et on cite des noms, je me rappelle, attends, un moment, je l'ai réécouté ce matin, on entend le mot Michael Crabtree, tu vois, par exemple.
Ah, Michael Crabtree. Oh, il est receveur honnête, hein.
Ah
Receveur honnête.
oui.
Il a fait de belles
Mais
choses.
ça fait bizarre, tu vois, tu
C'est vrai,
réentends
c'est
des
vrai.
trucs comme ça, Michael Crabtree, tu fais, ah, tiens. Ah ouais. Et alors honnêtement, je vous conseille de l'écouter rien que pour les pronostics playoffs de Raphaël ce jour-là, parce qu'il était inspiré.
Ah, je suis sûr que j'étais en retard au chrono.
Ouais, je pense. Je me rappelle plus si on le dit, mais parce que en parlant des noms, là, c'est un nom pour les experts, hein, mais on parle de TJ
Ah, sacré
Yates. C'est
TJ
quand même. Voilà. Donc je vous invite à l'écouter. C'est un podcast rétro plutôt sympa. Merci beaucoup Raphaël. C'est comme ça que se
Yates. Merci
termine
à toi.
l'épisode 517 du podcast Touch en Action. On vous remercie de nous écouter, de nous suivre, de nous soutenir sur Tipeee. Il y a plein de trucs qui arrivent très bientôt sur Tipeee d'ailleurs. On va mettre ça probablement la semaine prochaine. Il y a plein de nouveautés qui arrivent. J'ai fait la commande, tout doit arriver en gros. J'attends d'avoir ça pour vous les proposer. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchJeanActu en entier, TikTok @TDActu, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter et @AlainMattei. Pour moi-même, on se retrouve donc très vite sur les antennes de TDA. Merci beaucoup de nous suivre. Les podcasts tous les jours et twitch.tv/TDActu pour les directs, le fauteuil 17h30 tous les dimanches. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocage Global Beckham, Tom Brady Quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.